parlait tantôt, Julie et moi, hier, aussi, on était allés se promener à Québec tout l'après-midi dans le centre-ville. On a essayé fort de trouver des manifestants pour répondre à nos questions, mais la plupart refusaient. Surtout quand on mentionnait qu'on travaillait à Radio de Québec. Je sais même pas pourquoi ils refusaient.
Ça a l'air qu'on n'est pas aimable.
Non, c'est ça. Ben, nous, on est aimable. Il y a des gens à Radio de Québec qui sont pas aimables.
Mais tout le monde est fin.
En même temps, je comprends des fois que tu es un peu méfiant. Il y a une manif, il y a des policiers, il y a des journalistes. Tu sais pas trop. Tu peux te sentir un petit peu agressé par ça. Mais bref, on en a trouvé qui ont accepté la tribune, qui ont accepté de venir discuter avec nous et nous expliquer leurs revendications. C'est Steve et Alex qui sont au téléphone. Bonjour à vous deux.
Salut, bon matin.
Alors, bon. Vous êtes membre du syndicat industriel des travailleurs et travailleuses de Montréal. C'est quoi ça?
Le syndicat industriel des travailleurs et travailleuses, à l'origine, c'est un syndicat américain créé en 1905. Nous, on représente la branche de Montréal, qui compte actuellement environ 200-250 membres. Nous, nos objectifs, c'est assez simple, c'est de démocratiser nos lieux de travail, les organiser, favoriser en fait la solidarité entre les différentes industries de travail, dépasser le corporatisme et avoir un discours qui est anticapitaliste, avoir un discours qui est basé sur la solidarité.
OK.
Ça veut dire ça.
Vous êtes venu manifester à Québec. Pourquoi exactement? Quelles sont vos revendications?
Bien, tout d'abord, est-ce que vous savez c'est quoi un G7?
Oui, on a parlé du G7 déjà pas mal dans les dernières heures. On sait que c'est le regroupement des 7 pays qui ont les PIB les plus importants. Il y a des pays qui sont pas dans le G7, là, mais on sait que c'est la rencontre des 7 dirigeants qui vont discuter de certains enjeux. Ça, on sait tout ça.
Oui, c'est ça, avec plusieurs compagnies privées qui sont là, à peu près plusieurs dizaines d'autres pays comme le Sénégal, le Rwanda, qui sont là, qui font pas nécessairement partie du G7, mais qui sont là pour parler soit de politique et environnementale, féministe, de migration ou encore d'économie avec les compagnies qui sont là.
Et donc, vous venez revendiquer quoi exactement?
Pour nous, la pertinence d'aller à un grand événement comme le G7, c'est que les grands représentants de conflits armés, de politique d'austérité ou encore de politique anti-migration débarquent chez nous. Fait que c'est évident qu'on peut pas laisser ça passer sous silence.
Okay.
Nous, dans le fond, comme plein d'autres personnes qui militent partout au Québec puis ailleurs, on défend au quotidien nos valeurs, soit dans nos quartiers, soit dans nos villages, des valeurs comme le féminisme, la solidarité, l'anticapitalisme. Puis ça va être au quotidien avec, par exemple, des propriétaires véreux qui augmentent trop, qui font du harcèlement, avec des boss qui vont pas nous payer, etc. Puis ben, le G7, c'est l'occasion de le faire à une vraiment plus grande échelle avec ceux qui représentent le plus là, toutes ces oppressions-là qu'on vit au quotidien.
Les manifestations sont loin d'être aussi grosses et de réunir autant de gens que ce qu'on prévoyait. Pourquoi, selon vous?
Ben, je crois qu'en fait, on pourrait dire que ça, principalement dans les derniers mois, il y a eu une grosse campagne de peur au niveau médiatique qui a été faite. On peut le voir à peu près quotidiennement dans les dernières semaines, dans les derniers mois. Chaque jour, on allait voir des articles mentionnant le nombre de policiers qui allaient être déployés sur le terrain, l'appareil répressif qui allait être mis en place. On parlait beaucoup de violence potentielle, étonnamment de la part des manifestants, alors qu'on présentait en détail l'appareil armé qui allait occuper les rues de Québec. Donc, ça, je crois que ça peut expliquer en partie une des raisons pourquoi certaines personnes ont été plus frileuses à venir à Québec, avec raison.
En même temps, quand on parle de prévention, de sécurité, le nombre de policiers, l'appareil d'armée là qu'ils ont pour assurer la sécurité des gens puis assurer que les manifestations soient pacifiques, c'est parce que c'est un petit peu aussi décidé en fonction des expériences passées. L'an dernier, en Italie, ça a brassé énormément. On a le souvenir de l'Allemagne en 2017, le G20. Plus près d'ici, on a le souvenir évidemment du G20 de Toronto. Il y a eu des manifestations, il y a eu de la casse, il y a eu de la violence. Il y a ça aussi dans les manifestations. C'est ça que les policiers tentent de réprimer, non?
Ben, nous, en fait, on dit pas les termes que vous venez d'utiliser. On dit pas sécurité et prévention, on dit contrôle. Pour la simple et bonne raison que souvent, ça va être les policiers, policières,
qui vont lancer les hostilités. Puis c'est des personnes, entre autres, qui étaient dans des organisations des derniers jours qui devaient essayer de contrôler les policiers pour pas qu'ils agissent à des moments qui n'avaient aucun rapport. Par exemple, quand il y avait des personnes dans des commerces aussi autour, donc ils mettaient plusieurs personnes en danger. Quand on a 8000 personnes, soit de l'armée, du CRS, de la GRC, du SPVQ, etc., donc de tous les corps policiers possibles et imaginables pour, vous l'avez dit, hein, un peu moins de monde que ce qu'on pensait, mais on voit que c'est un peu démesuré. Quand vous avez parlé de violence, ben nous, en fait, on en parlait d'ailleurs hier, ce qu'on a vu, c'est que c'est une espèce... dans le fond, tu sais, dans les derniers jours, ça s'est assez bien passé, là. Oui. Il y avait des personnes avec beaucoup de couleurs, de slogans, de bannières, etc. Puis, ben, avec les 600 millions qui ont été investis principalement pour des armes qu'ils n'ont pas du tout utilisées, hein. C'est des centaines de grenades qu'ils ont achetées, qu'ils n'ont pas utilisées. Mais c'est un peu une démonstration que l'État est dans une dynamique de violence qui arrive même pas.
Oui, mais elle arrive pas, mais la menace, elle existe. Vous me dites, il y a différents slogans, différentes couleurs. C'est vrai, c'est bien. Mais moi, ceux qui me fatiguent, c'est les noirs. C'est ceux qui se masquent le visage, sont en noir de la tête aux pieds et qui menacent de faire de la violence. Non, mais c'est vrai, ils sont là, eux autres. Ils sont une vingtaine, ils sont une trentaine, ils sont pas plus, mais c'est eux qui font de la casse. Est-ce que vous dénoncez les comportements violents de ces gens-là?
Non, pas du tout. En fait, moi, je vais être bien honnête, là. Si, admettons, on regarde pour 600 millions de dollars, ça aurait coûté pas mal moins cher que 100 000 $ de vitrines pétées que des compagnies d'assurance auraient remboursé au final. On s'entend, c'est quoi une coupe de vitrines pétées versus, si, admettons, les bœufs se mettent à canarder avec des rubber bullets dans une foule. T'sais, là, on parle, admettons, de dents pétées, de côtes cassées, de crâne fracturé, d'œil crevé.
Oui, mais en même temps, tu sais que les 600 millions qui sont investis, c'est parce qu'il y a eu des vitrines pétées, puis c'est parce qu'il y a eu des gens qui ont fait de la violence, mais d'un autre côté, vous dénoncez pas les gens qui sont la cause de cette sécurité accrue-là. Il me semble que c'est incohérent.
Ben, écoute, mon Paul, nous, dans le fond, ce qu'on a constaté, c'est qu'il n'y en a pas eu, là, de toute façon, de vitrines brisées.
Effectivement.
Tu as comparé le cas du Québec à certains cas européens, alors que j'imagine que tu sais très bien, peut-être que tu as déjà voyagé, que l'Europe et le Québec, c'est pas exactement la même chose.
Oui.
Nous, ce qu'on a vu sur le terrain, tu as peut-être eu l'occasion de me voir aussi puisque tu y étais, c'est que les policiers ont des caméras où ils font des gros plans là, de toutes les personnes qui sont autour des manifestations, dans les manifestations.
Oui.
S'ils voient des gens qui font des actes répréhensibles, ils viennent tout simplement les chercher. Fait que ça coûte pas 600 millions, puis t'as pas besoin de 1000 personnes pour faire ça. En 2018, il y a une dynamique de militarisation de la police. Hein. Ils ont beaucoup d'effectifs, beaucoup de technologies à leur disposition. Ils l'utilisent assez bien. Et donc, il n'y avait pas nécessairement besoin de 600 grenades assourdissantes. Là. De toute façon, les personnes qui voulaient arrêter, ils ont arrêté.
Donc, le Black Bloc, ceux qui font de la violence, du vandalisme dans les manifs, selon vous, n'ont absolument aucun rôle à jouer dans le fait que la sécurité soit de plus en plus accrue et coûte de plus en plus cher quand il y a des rassemblements internationaux comme ça?
Ben, ça revient un peu à la réponse que je te disais tout à l'heure, où en ce moment, c'est un grand événement international où il y a des grands représentants là, de plusieurs oppressions politiques qui nuisent à la société. Puis, c'est beaucoup plus pour ces personnes-là que les mécanismes de contrôle sont faits que pour les personnes qui sont dans la rue. Tu as commencé l'entrevue en nous disant qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. On est d'accord avec toi. Si on compare aux grandes manifestations en Europe, c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Là. Fait que c'est des mesures disproportionnées qu'ils ont prises et dangereuses.
Je veux juste être bien sûr que j'ai bien compris, Alex. C'est ça, Alex?
Oui.
Tantôt, ton collègue a dit, par rapport à la casse qui est faite, puis la sécurité, en fait, tous les coups que ça engendre, vous considérez que le fait de casser des vitrines et tout, ça coûte moins cher que toute la sécurité qu'on a mis en place?
Mais je sais pas, c'est quoi le... Pourquoi vous insistez là-dessus? Là? J'imagine que ça fait partie d'une ligne qui...
Pas du tout.
Qui peut être populaire.
Non,
ça fait quatre questions,
ben, en fait,
mais je vais te répondre d'une certaine façon. Dans le fond, la répression, ce qu'on vit en ce moment, ça s'appelle de la répression politique. La répression politique, c'est contrôler, contraindre ou empêcher l'action politique qui soit individuelle ou collective, puis qui relève pas de parti politique. Fait que c'est tout un espèce de mécanisme là, complet qui va aller chercher toutes les sphères possibles et imaginables qui se met en place. Puis ça, ben, c'est vrai que ça coûte cher. Quand on parle de répression politique, c'est par exemple, oui, la brutalité policière, mais aussi la répression juridique. Hein. On l'a vu par exemple il y a quelques années, beaucoup avec des souricières où finalement toutes les accusations tombaient à l'eau. Il y a la répression médiatique aussi, où soit il y a beaucoup de fausses informations qui circulent, on l'a vu beaucoup là dans les semaines avant le G7, ou sinon ben c'est une façon de traiter l'information qui va axer sur différentes idées là qui représentent pas du tout le mouvement militant.
Vous avez pas répondu à ma question par exemple, parce que si par exemple on décide d'enlever tous les policiers dans la ville de Québec actuellement puis que vous allez manifester et qu'il y a de la casse. Dans le fond, c'est ce que vous dites, c'est que ça coûterait moins cher qu'on fasse de la casse. Est-ce que vous en feriez quand même si les policiers étaient pas là?
Mais nous, dans le fond, là, quand on vient à un événement, on y va avec nos valeurs, nos idées qui sont d'abord et avant tout la solidarité. Là, on va le rappeler, Julie, on est dans un syndicat de travailleurs et de travailleuses qui milite pour la qualité de vie de tout le monde qui se présente à nous. Puis ça inclut des personnes qui habitent à Québec, qui ont des maisons dans le centre-ville, qui ont des commerces dans le centre-ville. Puis nous, c'est avec ça qu'on y va. Si on avait voulu faire des choses comme ce que vous dites, j'imagine qu'on aurait pu les faire, mais nous, notre orientation est vraiment pas là-dedans. On a marché avec du monde super cool, avec une belle bannière. On a pu distribuer des journaux vraiment intéressants qu'on prend beaucoup de temps à faire. On a pu aussi faire des liens, tu sais, avec des groupes qu'on croise moins souvent, par exemple des groupes pour la libération de la Palestine, contre les oléoducs. Puis nous, c'est pour ça qu'on est allé, tu sais, puis on y va tout le monde avec nos objectifs, nos limites, puis étant donné que vous nous parlez à nous deux, nous, c'est ça.
Est-ce que vous n'avez pas l'impression, des fois, dans vos manifestations, que les gestes que vous posez sont en vain? T'sais, on a quand même l'impression qu'il y a souvent des manifs. C'est rendu culturel, quasiment. Il y a un G7, il y a une manif, mais on a quand même l'impression que ça ne change pas grand-chose. Est-ce que des fois, vous avez envie de baisser les bras?
Attends, peux-tu répéter la question?
Ben, en fait, ce que je demande, c'est, comme il y a souvent des manifs, ça se perd un peu dans l'eau de tout ce qu'on voit dans les médias, de tout ce qui se passe, c'est rendu habituel qu'il y ait des manifs quand il y a des grandes rencontres internationales comme ça. Avez-vous l'impression, parfois, quand vous manifestez, que vos gestes sont en vain?
Ben, pas vraiment. Je dirais ça fait à peu près quoi, 4 jours que vous parlez 24 heures sur 24 de systématiquement tout ce qu'on fait. Si y a 2 manifestants qui pètent de travers dans la rue, on s'entend que vous allez faire une émission de 2 heures dessus. Donc non, en fait, je crois que systématiquement, quoi qu'on fasse, il y aura quand même une portée médiatique. T'sais, le G7, on s'entend là. On s'en contre-crise pas mal du G7 parce qu'au final, toutes les décisions sont déjà prises. Par contre, c'est quoi le G7? C'est une vitrine sur tout ce qu'on veut revendiquer. Littéralement, tout ce qu'on va dire, t'as plusieurs milliers de journalistes qui sont là pour systématiquement capter toute image, tout son, toute parole qui va être diffusée. Donc non, c'est quand même un super événement là, si tu veux venir passer un message. Nous, je veux dire, on vient passer mettons, un message par rapport aux conditions de travail des gens en général.
Ouais.
Ben, tu sais, on en entend plus parler dans les derniers jours qu'admettons dans les 3-4 derniers mois. T'sais. Donc, non, ça vaut la peine. Là.
Steve et Alex, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de nous parler ce matin. Je sais que c'est pas tellement dans les habitudes des manifestants, mais j'ai beaucoup apprécié notre discussion. Pas tout à fait d'accord avec vos points de vue, mais je l'apprécie quand même. Merci.
Ah, ben, en fait, on tenait à te remercier, Paul, toi aussi, Julie, parce que c'est pas dans les habitudes des médias de prendre le temps de nous expliquer leur démarche avant de venir nous interroger.
Ouais.
Et donc, c'est pour ça qu'on a accepté.
Ben, voilà que j'apprécie beaucoup. Merci, bonne journée à vous.